was the freedom bell to remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
C'est l'apéro.
L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio.
There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophonie. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Grenoble 90.
L'apérophonie.
L'apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle apérophonie. Donc, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8. Je suis Johanna et quand j'ai réfléchi à ce dont j'avais envie de parler pour ce soir, pour cette première émission finalement que j'anime, je me suis dit que j'avais très envie d'aborder quelque chose de facile à aborder, un sujet qui soit léger, qui soit simple. Donc je me suis dit que le bon credo, ce serait de parler d'écologie, de changement climatique et de comment chacun réagit face à ces problématiques et surtout face à leur urgence. C'est une affaire rondement menée, je pense. Donc, pour aujourd'hui, je ne suis pas seule en studio. Je suis avec trois invités, donc Louise, Élise et Caïs. Bonsoir à tous les trois et merci d'être ici.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, pour commencer, j'aimerais bien vous demander de vous présenter tous les trois. Donc, Louise, tu peux commencer si tu veux.
Bonjour, moi c'est Louise, donc j'ai 24 ans. Je suis ancienne étudiante sur le campus de Grenoble. J'étais à l'ENSIMAC, donc avec une formation assez informatique. Et donc là, ça fait 6 mois que je réfléchis un peu à mon engagement et de quel côté je voudrais orienter ma vie. Et donc là, je suis actuellement en service civique pour l'association Conscience et Impact écologique que je présenterai par la suite.
Super, merci.
Donc moi c'est Lise, j'ai 22 ans et je suis étudiante en histoire de l'art en M1 sur le campus de Grenoble aussi. Et donc moi je suis là un peu pour parler de mon investissement dans le festival des mauvaises herbes, qui est du coup une manière pour moi d'agir aussi à mon niveau en parallèle de mes études et qui me permet de trouver un peu comme toi Louise, une manière de m'investir tout en continuant mes études.
Merci Caïs.
Alors bonsoir, moi je m'appelle Caïs, j'ai 24 ans, j'étais étudiant en histoire de l'art à l'université de Grenoble. Ça fait 3 ans que je participe plus ou moins régulièrement en tant que chroniqueur à Radio Campus, avec grand plaisir à chaque fois. Cette année je suis étudiant à Dijon dans une formation type événementiel culturel, je vais vous épargner l'acronyme un peu barbare. Mais donc voilà, quand je reviens à Grenoble, je prends toujours le temps normalement de revenir à Radio Campus.
Ok, super. Bah, merci beaucoup à tous les trois. Je vais m'adresser maintenant surtout à Louise et Élise, puisque du coup, Louise, toi, tu expliquais que tu fais partie de l'association Conscience et Impact écologique, là où tu es donc en service civique. Et toi, Élise, tu expliquais, tu commençais à parler de l'événement Les Mauvaises Herbes. Donc, je veux bien que vous présentiez chacune de quoi il s'agit. Louise, tu peux commencer si tu veux.
Donc l'association Conscience Impact écologique, c'est une asso qui est basée à Lyon, qui a été fondée en 2012 et qui a pour objectif principal de sensibiliser et d'éduquer le plus grand nombre de personnes à toutes les problématiques, écologie, environnement, changement climatique. Donc il n'y a pas de mots pour mettre tout ça, mais bon, c'est un peu tout le package. Conscience Impact écologique, c'est l'asso en fait qui fait actuellement en France le plus d'interventions sur ces problématiques-là. Donc c'est l'asso qui forme le plus grand nombre de publics. Donc en 2018, il y a eu plus de 2000 interventions réalisées pour toucher tout public. Donc ça va vraiment de l'école primaire jusqu'à la maison de retraite, en passant par les études supérieures, les festivités. Donc Conscience Impact écologique fonctionne principalement avec des bénévoles, dont Johanna fait partie. Et donc ces bénévoles nous permettent de faire toutes ces interventions, d'animer des ateliers et d'agir sur trois leviers d'action principaux. Donc le premier, ça va être de susciter l'envie d'agir, en fait, donc donner les informations au public pour faire un peu un éveil des esprits. Et après, on va pouvoir leur donner les clés pour agir, donc sous forme d'atelier, en leur pointant des actions qu'on peut faire chacun de notre côté, dans notre quotidien, pour changer les choses. Et ensuite, on va les accompagner, s'ils veulent, dans leur transition écologique. Et donc pour ça, donc comme je disais, on a des bénévoles, on a des services civiques. Donc nous, sur Grenoble, on est deux. L'antenne grenobloise est assez récente, elle a un peu plus d'un an. Donc nous, on essaie de dynamiser un peu toute l'association ici, de trouver des nouvelles structures pour intervenir, des partenaires. Et donc on intervient dans des écoles, dans une épicerie, La Bonne Pioche, si vous ne connaissez pas. Et donc l'idée, c'est aussi d'intervenir auprès des entreprises et des étudiants au maximum. Et après, donc sur Lyon, pardon, l'asso est géré aussi par une équipe salariale et le bureau qui est bénévole. Donc voilà.
Ok, super, bah merci beaucoup. Élise, est-ce que tu veux prendre la suite ?
Et ben, du coup, oui, c'est un peu dans la continuité de ce que tu disais, Louise, mais plus au niveau étudiant. Nous, en fait, on monte cette année donc, un festival pour sa première édition donc, sur le campus de Grenoble et aussi au centre-ville. Qui s'appelle donc Les Mauvaises Herbes, qui est centré sur surtout la sensibilisation du public étudiant et justement l'accompagnement de ce public dans les démarches à suivre pour effectuer une transition écologique dans son mode de vie. Donc c'est une démarche qui vient déjà de l'année passée, où on a eu cette volonté de faire un concert caritatif avec les ATIPS, qui jouent beaucoup ici à Èves, et en partenariat donc, avec une association qui s'appelle Un Océan de Vie, qui est donc basée sur Marseille et qui s'occupe de la protection des fonds marins et de la sensibilisation aussi du public par rapport aux déchets qui sont rejetés dans les eaux. Et donc j'ai apporté cette association parce que c'est vraiment... quelque chose, c'est une cause qui me tient personnellement à cœur, et donc on a monté ce programme et on a pu récolter près de 800 euros pour cette association. Donc cette année, on a décidé de renouveler en fait cette démarche en voyant plus large, en voyant une semaine complète de festivités et d'ateliers. Donc on s'est allié à trois BDE, donc trois bureaux des étudiants, dont celui de l'Arche, d'art et sciences humaines, où Keïs et moi on étudie, et accompagné aussi du bureau des sciences du langage et des arts du spectacle. Donc chacun a apporté un peu à sa manière sa contribution, que ce soit par des ateliers, par des événements ou par de l'organisation. Donc on a prévu, comme l'année dernière en fait, cet élément central du concert qui se tiendra lundi prochain, le lundi 4 novembre, rêve pour soutenir cette association Un Océan de Vie. Et tout au long de la semaine, on va avoir des activités comme des matchs d'improvisation sur le thème de l'écologie, des ateliers zéro déchet, notamment en partenariat avec l'association de Louise, qui sera vraiment dans le but de sensibiliser et de montrer aux étudiants qu'on peut consommer de manière plus responsable, pas forcément en dépensant plus cher. À plus petit prix, c'est peut-être plus mieux dit. Et on aura également une clean walk, et pour ça, on est soutenu fort heureusement par la mairie de Grenoble et de Saint-Martin-d'Hères qui nous apporte le matériel nécessaire. Donc ça va être vraiment une semaine assez chargée, entrecoupée aussi de conférences, notamment par des étudiants conférenciers comme Caïs, et ce qui nous permet d'avoir un public assez large sur différents domaine d'affect. Donc on a essayé de toucher un peu le plus de monde possible, et pour s'exporter un petit peu au centre-ville et toucher un autre public qu'un public étudiant, on a monté une exposition photo dont on reçoit encore les photographies, et on va donc aller les exposer dans un restaurant bio et à vocation marché local et zéro déchet, qui s'appelle donc La Petite Mousse. Donc nos étudiants vont être exposés là-bas pendant une semaine pour avoir une plus grande visibilité et avoir un moment de partage aussi avec des gens, un public autre qu'un public étudiant.
Ok, super. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu peux rappeler les dates exactes de l'événement ?
Alors, le festival se tiendra du 4 au 8, avec donc un concert qui sera le 4 novembre à Ève, un match d'improvisation qui se tiendra le 5, dont on ne connaît pas encore le lieu exact, mais qui ne saurait tarder. On va avoir un film aussi qui sera diffusé en Arche 1, donc sur le campus. Et le jeudi, on va avoir donc l'intervention de la Bonne Pioche pour cet atelier débat, suivi de la conférence de Case, toujours à l'Arche, et la Clean Walk le vendredi 8, donc point de départ centre-ville de Grenoble, sur inscription et point d'atterrissage à Eve.
Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. J'ai une autre question et cette fois du coup je vais m'adresser à vous trois. Je voulais savoir un petit peu ce qui vous avait fait ressentir l'envie, l'urgence même de vous engager en fait pour l'écologie. Qui veut commencer ? Enfin Louise, vas-y.
Je vais commencer. C'est souvent une question qu'on nous pose, hein, quel a été le déclic ? Alors moi je dirais qu'il n'y a pas forcément de déclic, c'est un processus... qui a mis un certain temps, peut-être. Donc moi, je suis venue étudier à Grenoble, je ne suis pas de Grenoble. Mmh. Et je pense que cette ville qui est assez axée sur l'écologie, sur l'environnement, je pense qu'elle m'a poussée aussi à me poser des questions sur ma manière de fonctionner. L'épicerie La Bonne Pioche a fait en partie avancer ma réflexion sur le sujet, on va dire, parce que c'était la première épicerie zéro déchet qui ouvrait à Grenoble. La première épicerie zéro déchet que même moi je connaissais. Donc j'ai voulu tout de suite aller voir comment ça se passait et changer mes habitudes. Donc ça a été un peu ma prise de conscience lente. Et à la fin de mes études, donc j'ai fini mes études en mars de cette année, s'est posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant que je peux rentrer sur le marché du travail. Donc en tant qu'ingénieur en informatique, je me suis posé énormément de questions parce que j'ai eu le temps de réfléchir sur l'impact du numérique qui est très mauvais sur notre environnement, sur notre société aussi. Et donc voilà, la question c'était est-ce que moi j'ai envie de travailler dans ce domaine-là ? Est-ce que j'ai envie d'avoir l'impact que j'ai actuellement ? Ou plutôt de faire réfléchir le public vis-à-vis de cet impact ? Donc j'étais complètement perturbée vis-à-vis de ma formation, de mes compétences qui m'envoyaient vraiment dans une direction qui ne me plaisait pas du tout. Et donc au quotidien, je faisais quelque chose qui allait à l'encontre de mes valeurs. Donc ça m'a vraiment demandé de me poser pendant longtemps, donc 6 mois, pour réfléchir à comment aller dans le chemin qui me correspond avec, en alignant mes compétences et mes valeurs. Et donc j'ai trouvé ce service civique à conscience impact écologique qui pour moi correspondait parfaitement à ce que je voulais faire, parce que je pense que il y a certaines personnes qui ont des connaissances vis-à-vis du changement climatique, de l'environnement, de l'écologie, et ces connaissances en fait il faut les partager parce qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas sensibilisée. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'information. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Donc, pour moi, vraiment, l'éducation et la sensibilisation à ces enjeux-là, c'est essentiel. Et donc, j'ai envie de le faire, mais je ne me sentais pas la légitimité de me lancer là-dedans de mon côté. Donc, être dans cet asso et porté par les valeurs de cet asso, pour moi, ça prenait tout son sens. Et donc, voilà, je pense que j'ai ressenti cette envie d'agir et je ressens ce besoin de partager les informations que j'ai parce que je pense que c'est la seule manière qu'on a pour pouvoir avancer. Et donc voilà, essayer de faire une action collective pour faire changer les choses.
Ok, bah trop bien, merci. Qui est-ce qui a envie de me parler ?
Vas-y, je peux y aller, oui. Alors moi, ça s'est fait un peu en corrélation avec mon identification politique en général, pas seulement sur les questions écologiques. C'était quand j'étais en troisième année d'histoire de l'art et je crois que c'était l'époque, je crois, ou c'était en deuxième année, c'était l'époque des manifestations contre la loi El Khomri. Donc sur le campus, ça avait pas mal chauffé. Donc forcément, on ne pouvait pas y échapper à une certaine forme d'identification, de non-identification. Donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions simplement sur quelles étaient mes convictions, en quoi je croyais, sur les valeurs, ce genre de choses. L'année d'après, c'est là que j'ai fait entre guillemets un choix qu'on pourrait considérer comme s'inscrivant dans une démarche écologique, même si à l'époque pour moi ce n'était pas le cas. Réellement, je suis devenu végétarien Et ça s'est fait en à peine un mois, mais au début, pour moi, ce n'était pas « je vais devenir végétarien », c'était juste « je vais réduire ma consommation », parce que de plus en plus de gens autour de moi commençaient, et donc je n'ai pas fait ça par imitation, mais j'ai juste commencé à m'intéresser à la question, j'ai lu des études, j'ai regardé certains documentaires, j'ai lu quelques livres, et oui, c'est vrai, je me suis dit « bon, bah, il y a quelque chose à faire là-dedans, donc j'ai commencé à réduire et progressivement je me suis rendu compte, alors que j'étais un gros mangeur de viande, qu'en fin de compte ça, c'est extrêmement facile de réduire, et donc de un jour sur deux, un jour sur trois, une fois par semaine, c'est passé à zéro. Et aujourd'hui j'en suis, j'aimerais bien devenir vegan, mais à cause du fromage j'en ai pas le courage. C'est vraiment très difficile de se passer du fromage, surtout en France. Mais bien sûr, au-delà de ça, tout ce qui est rapport aux déchets et tout, je me pose, oui, toutes ces questions. Et là, de plus en plus, et là, peut-être que Louise, tu pourras en dire davantage aussi, je me pose encore cette question sur vraiment notre impact en tant que petit maillon de la chaîne consommateur que nous sommes. Et avec, depuis ces dernières années, ce petit basculement idéologique qui commence à y avoir, même dans le milieu activiste, par rapport à cette fameuse théorie du colibri, de effectivement, en tant que consommateur, on est acteur, on peut voter avec notre porte-monnaie, mais est-ce que réellement c'est suffisant face à ces mastodontes des multinationales et autres? Et j'imagine que ton association a dû être confronté à ce genre de problème, même face à d'autres partis politiques ou associations peut-être un peu plus dans l'activisme, peut-être qui font l'usage, pourquoi pas, parfois de violence, de mouvements radicaux. Enfin, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, ça m'intéresserait beaucoup, et peut-être après l'intervention de Élise.
Oui, ben moi, en fait, je vais te rejoindre totalement, Kaïs, parce que je suis devenue végétarienne il y a 7 ans. J'étais encore adolescente. Et ça a été aussi un cheminement. C'est-à-dire que moi, je suis devenue végétarienne par conscience, plus pour la cause animale. Et j'ai été amenée, en fait, à rencontrer des gens qui sont devenus véganes par conscience écologique. Et c'est vrai que quand on fait des recherches, on s'aperçoit du nombre et des chiffres, et on s'aperçoit que la consommation animale et l'élevage intensif est l'une des plus grosses sources de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc bien sûr, y a eu les accords de Paris qui ont essayé de mettre une deadline pour réduire ces émissions de CO2, mais est-ce que vraiment on va arriver à s'y tenir? Je pense que, là je vais te rejoindre aussi Louise, il faut arriver à sensibiliser vraiment le public et à donner l'information. Donc moi de mon côté, je ne sais pas s'il y a eu un déclic, parce que j'ai eu la chance d'être sensibilisée très jeune par l'école et par mon environnement, par ma famille. Donc c'est pas vraiment une question qui s'est... Il n'y a pas vraiment eu un déclic très fort, mis à part quand je suis devenue végétarienne, où là, il y a vraiment une prise de position qui s'est faite quant à la place de l'être humain en général dans la chaîne alimentaire. Et par conséquent de cette réflexion, l'impact écologique qu'il a. C'est-à-dire que tout ce qu'on consomme a forcément un impact. Et effectivement, après, tout dépend de la manière dont on traite son comportement et son impact écologique. C'est vrai que, Kaïs, tu disais, on peut voter avec notre portefeuille en achetant des produits bio locaux. Tout dépend si on l'achète dans une épicerie locale comme La Bonne Pioche ou si on l'achète dans un supermarché de grande chaîne. Ça a des conséquences totalement différentes d'acheter un sachet de bananes dans un sachet plastique qui vient de l'autre bout du monde que d'acheter des bananes séchées dans un pot en verre qui vient d'un pays plus proche. Donc oui, je pense que c'est un cheminement, et puis notre génération, j'ai l'impression, est beaucoup plus sensibilisée, beaucoup plus active à ce niveau-là, parce qu'on ressent, je pense, et les médias aussi jouent beaucoup là-dessus, sont beaucoup plus alarmistes, donc nous, on a accès à ces informations beaucoup plus facilement qu'avant, donc c'est peut-être plus légitime pour nous d'agir, je pense.
Pardon. Merci à tous les trois. Louise, est-ce que tu avais envie de revenir sur ce que Kaïs disait, peut-être ?
Sur les faits, le pouvoir qu'on va avoir chacun, nous, dans notre mode de consommation.
Plutôt sur la remise en question, justement, du consommateur, un peu, qui peut à lui tout seul changer le monde, et cette théorie du colibri qui, enfin, en fin de compte, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui sert à alléger notre conscience, plus, et, ou, je pense que les deux sont complémentaires. Qu'il faut, oui, que la théorie du colibri a sa place, mais qu'il y a un moment, il faut des changements politiques. On ne peut pas toujours demander. Et en plus, c'est un discours politique et médiatique et publicitaire très omniprésent de culpabiliser toujours le consommateur. On entend des parlementaires dire ça, on entend des PDG dire ça, toujours dire oui, mais et si on éduquait justement les consommateurs, oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas non plus légiférer contre McDonald's plutôt que éduquer le buveur le mangeur de Big Mac plutôt, quoi. Enfin, c'est...
Mmh. Bah, je suis totalement d'accord avec ça. Après, je pense qu'on a souvent tendance à se renvoyer la balle d'un camp à l'autre. Hein. Les politiques vont dire que c'est à l'individu dans son coin d'agir. Et nous, en tant qu'individu, on dit que c'est le pouvoir est aux politiques et que s'il ne faut rien, on ne pourra pas changer les choses. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Donc, si on agit individuellement, après, ça va pousser un peu le collectif à agir et ça va faire pression auprès des politiques. Donc, si on commence pas par là, les politiques vont pas changer. Mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'eux, ils nous répondent. On peut pas faire pression devant un mur. Et donc, c'est une démarche qui doit... Enfin, on doit avancer collectivement, sinon on va pas y arriver. Mais il faut pas se renvoyer la balle d'un coin à l'autre parce que chacun a ses responsabilités. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser ni l'un et l'autre, parce que le fait de culpabiliser quelqu'un, une personne, en fait, ça va juste la faire se braquer. Et ça, c'est la pire des réactions possibles qu'on va avoir, parce qu'on n'aura aucun changement, en fait, face à nous. Donc il faut, je pense, montrer l'exemple. Et effectivement, les colibris, chacun à notre échelle, peut-être que ça ne va pas changer le monde. Mais si tout le monde s'y met et qu'on arrive à faire pression, là, on pourra faire des choses.
Bah, merci beaucoup à tous les trois pour ces réponses. Caïs, je me tourne vers toi parce que tu nous as préparé une chronique que tu veux nous partager autour de l'art et de la protection de la nature. Donc, on t'écoute.
Merci. Alors, si je vous parle de Barbizon ou de l'école de Barbizon, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Moi, non.
Élise, un peu à toi peut-être,
oui,
tu as fait Histoire de l'art.
Ça me parle un petit peu quand même, ouais. C'est loin.
Oui, bon, j'ai écrit la chronique sans savoir que tu venais. Alors, Barbizon est une commune située aux confins de la forêt de Fontainebleau. Et au XIXe siècle, elle devient un centre d'attraction pour les peintres désireux de se consacrer aux paysages peints d'après nature. Ce regroupement d'artistes a progressivement été appelé École de Barbizon. Et là, vous pouvez légitimement vous demander... Pourquoi je vous parle d'un mouvement artistique dans une émission consacrée à l'écologie et aux enjeux environnementaux ? Certes, on retrouve cet intérêt pour la nature, mais j'aurais très bien pu vous parler de peintres de paysages beaucoup plus célèbres, comme les impressionnistes, par exemple. Et là encore, la pertinence reste douteuse. Alors pourquoi ? Artiste, écologie, quel rapport ? Comme vous le savez, le 19e siècle est une période d'industrialisation, avec l'impact que l'on connaît sur nos sociétés, mais aussi, et sans commune mesure dans l'histoire, sur l'environnement. Déjà, des réactions et des condamnations se faisaient entendre à l'époque, déplorant une nature sacrifiée sur l'autel du progrès et du profit. Ces réactions se traduisaient le plus souvent par la plume. Certaines, cependant, ont eu un impact concret et durable sur la protection de l'environnement. Les peintres de l'école de Barbizon sont à l'initiative de l'une d'entre elles. Voyant la forêt de Fontainebleau, leur précieux sanctuaire, menacé par les activités humaines, notamment le chemin de fer, ils initient un mouvement pour la préserver. Ce mouvement aboutira, grâce à un décret impérial, à la création d'une réserve artistique de 1094 hectares, où aucune altération humaine ne sera permise, devenant ainsi la première réserve naturelle au monde, avant le célèbre parc national de Yellowstone aux États-Unis. Alors, je n'ai pas choisi ce sujet pour jouer au bon chauvin franco-français. Ce que je trouve intéressant ici, c'est l'expression qui a été choisie. Ce n'est pas réserve naturelle ou réserve forestière, comme il le sera décidé plus tard, mais bien réserve artistique. C'est très révélateur. Cela signifie que cette initiative, aux fins et aux moyens tout à fait louables, a été motivée non pas pour la valeur intrinsèque de la nature, mais bien pour sa valeur esthétique. Et qui s'intéresse à l'esthétique ? Nous, les humains, et particulièrement les artistes. C'est-à-dire qu'une nature perçue par la société industrielle comme ressource matérielle, a été protégée par une communauté d'artistes qui y voit, cette fois, une ressource esthétique, un stock de motifs. Bien sûr, il ne s'agit pas là de condamner leur action. Qu'importe leur motivation, la méthode et les résultats sont sans conteste positifs. Et en plus, durables. Il s'agit simplement de montrer que même les actions a priori louables peuvent être malgré tout viscéralement anthropocentrées. Merci.
Bah merci beaucoup, Caïs, d'avoir partagé ça. Avant de poursuivre du coup cette conversation et du coup de certainement réagir à cette chronique tous ensemble, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Halfway to Nowhere de Chelou. L'antenne, vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. C'était donc Chelou, Halfway to Nowhere. Caïs, tu viens de nous présenter une chronique et ça me donne envie de vous poser une question à tous les trois. J'aimerais bien savoir en fait si finalement à travers des engagements écologiques et une lutte écologique, est-ce qu'on cherche à protéger la nature, la terre, ou finalement à se protéger soi-même, à protéger l'humain ? Est-ce que vous avez envie de réagir face à ça ?
Bon, je vais y aller. Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience qui est faite, mais surtout... après, c'est vraiment une impression personnelle. Hein. Je peux pas appuyer ça par des chiffres ou des arguments concrets, mais j'ai vraiment le sentiment que l'urgence aujourd'hui, c'est de sauver l'humain avant de sauver l'environnement, mais en même temps, l'humain vit dans l'environnement, donc par conséquent, on doit sauver cet environnement. Mais le ressenti que j'ai, c'est de pouvoir conserver notre mode de vie actuel, ainsi que nos industries, nos divers commerces et manières de fonctionner, et garder voilà, ce système un peu monétaire qui peut connaître ses dérives. Et j'ai l'impression que voilà, cette prise de conscience écologique, il va y avoir une minorité, comme par exemple L214, Un océan de vie, ou...
Conscience impact écologique.
Merci, aux consciences impact écologique qui vont vraiment agir dans un but global, en fait, pour préserver un peu le tout ce qui nous entoure. Et j'ai cette impression qu'il y a d'autres mentalités, d'autres causes d'action qui soutiennent beaucoup plus l'humain en lui-même, quitte à se séparer de quelques espèces animales ou végétales. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus centré pour certaines personnes, notamment par exemple nos politiques. Je suis pas certaine qu'ils donnent grande importance à ce qui sort de la sphère humaine.
Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre, de réagir ?
Moi, je suis assez d'accord avec Élise. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, tous les rapports qui sortent et qui sont publiés mettent en avant une urgence. Mais une urgence pourquoi ? Pour la survie de l'être humain. On sait que la biodiversité s'effondre. Il y a plein d'écosystèmes qui disparaissent aujourd'hui. Mais la planète, elle va survivre en fait à tous ces changements. Et ça, je pense qu'on en a tous conscience. La vie existe depuis des milliards d'années sur notre planète. Je pense qu'elle n'est pas prête de disparaître. L'homme ne fera pas disparaître la vie. On va très certainement faire disparaître toute cette magnifique biodiversité qu'on a aujourd'hui, et la beauté de la nature. Enfin, je suis subjuguée de découvrir encore des images sur les animaux ou des paysages qui existent sur notre planète. Et ça m'attriste, en fait, de savoir que tout ça va disparaître. Mais les actions qui sont menées aujourd'hui, c'est pas du tout pour préserver tout ça, c'est pas pour préserver les écosystèmes qu'on a autour de nous. On va préserver les écosystèmes qui sont nécessaires à notre survie, mais on va pas vraiment aller au-delà. Donc on s'inquiète de la disparition des insectes, de la disparition des abeilles. Pourquoi ? Parce que les abeilles sont les principaux pollinisateurs de tous les aliments qu'on va consommer, nous, en tant qu'humains. Mais le reste des espèces n'a pas besoin des abeilles pour survivre, ou peut-être pas autant que nous. Et donc toutes les actions qu'on va mener aujourd'hui et tous les rapports qu'on voit, c'est qu'il faut limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés ou 1,5 degré. Pourquoi ? Parce que au-delà de cette limite-là, l'homme ne pourra pas survivre, ou on va mettre en place des mesures qui vont être contre-productives pour pouvoir garder notre confort. Donc je pense sincèrement que aujourd'hui, on prend conscience de la survie de l'humanité.
Je suis content que tu dises ça, parce que c'est exactement ce que je disais à Johanna tout à l'heure. En fait, c'était juste par rapport aux éléments de langage. Il faut sauver la planète, il faut sauver l'environnement, protéger la nature. Enfin, c'est ce que je disais à Johanna, c'est que bon, enfin voilà, c'est la Terre nous survivra. On ne va pas la détruire, même si demain il y a une guerre nucléaire. Enfin, elle est là depuis des millions d'années, elle sera là dans des millions d'années. C'est pour nous-mêmes. On en revient toujours à nous-mêmes, parce qu'apparemment on est la seule espèce véritablement consciente et avec une intelligence aussi développée sur la planète. Mais c'est ce côté faussement naïf de dire il faut sauver la planète. Alors en fin de compte, non, c'est nous qu'il faut sauver. Elle nous survivra, la planète. Et comme tu parlais des espèces en plus qui disparaissent, enfin voilà, on s'inquiète des espèces qui sont vraiment indispensables à notre survie. On s'inquiète du panda parce qu'il est mignon. Ce serait une catastrophe humanitaire. Ce serait une catastrophe, mon Dieu, s'il disparaissait, alors que des espèces disparaissent chaque semaine. Mais parce qu'elles sont soit très disgracieuses, soit totalement inconnues du public. On en revient justement au caractère esthétique des choses aussi qui jouent énormément, et au choc parfois qu'il faut savoir provoquer chez certaines personnes, et à l'utilité des documentaires, des témoignages et autres, mais qui malheureusement ne suffisent pas. Témoigner comme un... témoigner malheureusement montre que ça n'a pas suffi. C'est des choses dont on parle depuis les années 60, 70, 80. Je me rappelle d'une chronique que j'avais écoutée sur France Inter et qui parlait de Ushuaïa de Nicolas Hulot. Et le propos de cette émission de Nicolas Hulot, c'était de montrer la beauté de la nature pour sensibiliser et créer le désir de vouloir la préserver. Bah, malheureusement, force est de constater que ça n'a pas marché. Je ne suis pas neurologue ni psychologue, mais on doit avoir un système qui fait qu'on est capable de s'émouvoir un instant, une fraction de seconde sur un film, et ensuite avoir un comportement qui va totalement en contradiction avec la chose qui nous a émus à peine quelques heures, quelques jours avant.
Oui, mais on est quand même dans une démarche totalement égoïste. Hein. Je veux dire, on cherche à préserver notre espèce humaine. Si on cherche par conséquent à préserver notre environnement et notre planète, c'est parce qu'on ne peut pas vivre pour l'instant ailleurs que sur cette planète. Donc forcément, il est un peu de notre devoir de la préserver, mais c'est un peu comme tu disais, Caïs, voilà, on est capable de s'émerveiller et en même temps d'avoir un comportement particulièrement autodestructeur. Et j'ai l'impression qu'on fait vraiment partie de ce... Je nous vois un petit peu comme une petite foule de fourmis en train de se battre pour préserver son confort, son mode de vie capitaliste et en même temps d'essayer de conjuguer un peu le désastre écologique qui s'abat sur nous. Et il faut aussi arriver à un moment donné à se mettre en accord avec soi-même, à se dire que si on veut vraiment protéger cet environnement, il faut être prêt à faire des sacrifices qu'on n'est pas prêt à faire. Par exemple, prenons Nutella. Je veux dire, on continue encore avec l'huile de palme et les déforestations. Et pourtant, à côté de Nutella, on va trouver des panneaux publicitaires nous disant que, attention, il faut préserver notre environnement. Donc je trouve qu'on a vraiment ce comportement à la fois très émerveillé de la nature qui nous entoure, qu'il faut protéger, et en même temps on n'est pas capable, ou du moins pour une grande majorité, on n'est pas capable de se défaire de nos habitudes. Et du coup on s'endigue dans ce comportement destructeur et autodestructeur.
Moi je trouve qu'il y a quand même un paradoxe assez intéressant. Donc tu disais que l'espèce humaine est la seule dotée de conscience ou de pleine conscience. Je trouve ça assez ironique, en fait, quand on dit que l'humain est l'espèce la plus intelligente et la plus consciente qui existe aujourd'hui sur Terre. On est quand même la seule espèce qui a réussi à détruire l'environnement nécessaire à sa survie, sans s'en rendre compte au début, en s'en rendant compte après un certain temps. Et pourtant, même avec cette prise de conscience, on est incapable de changer la donne. Donc je pense qu'il faut redescendre de nos grands chevaux et arrêter de dire « sauvons la planète ». Déjà, changeons le texte en disant « sauvons l'humanité ». Et je pense qu'il serait temps de prendre les actions et les mesures nécessaires pour arriver à nos fins et sauver l'humanité et ce qui reste de la biodiversité.
Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contradictions, surtout en ce moment. Merci à tous les trois encore pour vos réponses. On va faire une deuxième petite pause musicale avant de passer à la dernière partie de cette émission. Donc on va écouter Monsieur Crane, Bad Situation.
Holiday, 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 holiday.
Wake up in the neighborhood,
holiday,
a little bit confused.
Holiday,
wake up in the neighborhood, a little bit confused. By situation, my situation, but situation, sad situation,
holiday, 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 holiday. Holiday.
Wake up in holiday. The neighborhood. All step
holiday.
My situation.
Holiday.
Bad situation.
Holiday.
My situation.
Holiday.
Sad situation.
Holiday.
holiday, 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 holiday.
Bad situation, sad situation,
holiday,
bad situation, sad situation,
holiday, 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 holiday.
C'était donc Bad Situation de Monsieur Crane. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Du coup, pour terminer un petit peu cette émission, j'avais envie de vous partager un petit quelque chose que j'ai fait et de vous parler en fait de moi, la façon dont j'ai un petit peu appréhendé les choses. C'est-à-dire que assez rapidement, dans ma prise de conscience écologique et ma prise de conscience face au changement climatique et à toutes ces problématiques, et encore aujourd'hui, ça me travaille beaucoup les méninges quotidiennement, je pense beaucoup en fait aux générations futures et au fait que aujourd'hui j'ai envie d'avoir un enfant, des enfants, je ne sais pas, et que du coup je ne sais pas en fait comment cette envie là va évoluer et si en fait je vais devoir finir par faire le deuil en fait de cette envie vu comment le monde évolue et la direction qui est prise en ce moment. Donc pour ça, je voulais vous partager une chronique que j'ai réalisée, qui s'appelle donc « Lettre offerte à mon futur enfant » et à laquelle on pourra un petit peu réagir ensuite pour terminer l'émission. Voilà, je vous laisse écouter ça.
Salut! Tu n'existes pas encore, et pour être très honnête, je sais pas si tu existeras un jour. Et ça me fait très peur. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de m'adresser à toi parce que j'ai peur tous les jours. Et même si c'est le seul fantasme de ton existence qui me fait tenir parfois, je me dis que c'est toujours ça et j'ai besoin de te dire certaines choses. Aujourd'hui, je me rends compte que les actions que je mène dans mon quotidien, à mon échelle, ne suffisent plus. Ça fait quelque temps que j'en ai plus ou moins conscience, mais ça me frappe particulièrement ces dernières semaines. Et je sais que plus tard, tu ne seras pas reconnaissant ou reconnaissante que j'ai utilisé des sacs en toile plutôt que des sacs en plastique, que je me sois déplacée en vélo, que j'ai fait mes courses en vrac, bio, local, que j'achetais pas mes vêtements neufs, que je sois végétarienne ou que je ramassais les déchets. Je sais que la gratitude que tu pourras avoir sera celle pour le fait que j'ai fait partie des personnes qui se sont battues bien au-delà de ça, que je sois pas restée dans ma zone de confort, que j'ai surpassé mes peurs et que j'ai osé désobéir face à des règles et des systèmes qui détruisent mon espèce et toutes les autres. Je sais que les actions et les positionnements que je mets en place au quotidien sont nécessaires, que ça a du sens, et en même temps, je suis consciente qu'il faut pas que je m'arrête là si je veux que les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, les choses doivent changer urgemment. Les associations, les chercheurs, chercheuses, les scientifiques s'accordent à dire que si nous continuons de produire, consommer, exploiter comme nous le faisons, nous courons à notre perte. Et je peux te dire qu'aujourd'hui on court sacrément vite, et ça m'effraie complètement. Pour être honnête, je sais pas si tu existeras, aussi parce que j'ai très peur dans mon propre ego de pas être à la hauteur. Je suis terrorisée à l'idée qu'un jour, le jour où tu comprendras ne serait-ce qu'un petit peu ces enjeux, tu lèves les yeux vers moi et tu me dises « Mais tu savais, toi ? Enfin, tu savais tout ça ? Et t'as fait quoi ?» Et que ma seule réponse, ça puisse être « Ouais. Ouais, je savais, ouais. Et c'est tout. » Alors mon fils, ma fille, pardon. Pardon parce que même si je ferai toujours de mon mieux, même si je pense à toi dans chacun de mes choix engagés ou militants, eh ben je suis incapable de savoir dans quel monde tu vas vivre. Mais sois sûre que si je te mets au monde un jour, Je le ferai parce que j'aurai le courage de continuer ce combat et surtout de prendre soin de toi, de te protéger. Et s'il le faut vraiment, de te donner des clés pour que tu te battes à ton tour. Parce que sincèrement, je veux que t'existes. Je veux que t'aies de l'air propre dans tes poumons et de la bonne bouffe dans ton estomac. Je veux que tu sois libre, que tu te marres tous les jours, que tu connaisses la légèreté, la joie, que la seule peur que tu connaisses soit celle où t'es le nez qui coule, plus de mouchoir et que tu sois obligé de te moucher dans ton pull. Enfin, ou toute autre peur d'enfant qui est franchement pas grave, tu m'as comprise. Je veux que tu sois courageux, courageuse dans ce qui te tient à cœur, mais j'espère que tu n'auras pas à l'être face à un monde que tu vas subir et où ta vie sera en danger. Je veux tout faire pour que tu manques de rien, parce qu'aujourd'hui, la seule pensée de t'avoir un jour dans mes bras et de te protéger me donne plus de courage que de me battre pour ma propre survie. En attendant que je puisse te serrer contre moi, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je suis bien accompagnée, je me bats pas seule et j'ai hâte que tu rencontres les personnes formidables à mes côtés. Alors mon fils, ma fille, merci de me faire tenir en attendant. Et merci de me donner l'envie de tout défoncer pour toi, avant même que t'existes. Voilà, donc c'était lettre ouverte à mon futur enfant pour les auditeurs, auditrices et même éventuellement mes trois invités qui se poseraient la question. La musique en fond, il s'agit de Different Trains de Steve Reich. Je ne sais pas si je prononce très bien le nom de famille de cet artiste. J'espère que oui. Voilà, donc je voulais voir avec vous à la suite de cette chronique si... Si en fait c'était aussi une problématique éventuellement que vous vous étiez posée, le fait voilà, d'avoir ou non un enfant, est-ce que votre engagement écologique vous a fait remettre en question en fait une envie ou pas d'avoir des enfants, est-ce que vous vous êtes posé la question des générations qui arrivent ou pas, voilà.
Merci pour cette chronique, Johanna, qui dit beaucoup de choses que je pense aussi au fond. Donc moi, je pense que c'est pas mon engagement qui me fait poser ces questions, c'est plutôt la prise de conscience que j'ai eue. Donc que je sois engagée ou non, je pense que j'aurais quand même réfléchi au sujet. Mais effectivement, c'est, je pense, c'est un sujet qu'on va tous être amenés à se poser si on a les connaissances sur la situation. Est-ce que donner la vie à un enfant, à un être, c'est lui faire un cadeau ou pas, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu peur de ça, d'imposer en fait un être qui n'a rien demandé. Enfin, un bébé, c'est frêle, il ne peut rien faire face au monde quand il arrive. Est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que je vais pas lui imposer un monde dans lequel il ne peut pas vivre, un monde de conflits, un monde où l'homme survit plutôt que vit, où les espèces survivent plutôt que vivent. Moi, j'imagine ce bébé-là dans un monde noir, violent, et j'ai pas envie, en fait. Et malgré au fond ce souhait, effectivement, oui ou non, d'avoir des enfants. Mais voilà, je me pose vraiment la question, est-ce que j'ai envie d'amener la vie dans un contexte dans lequel je ne suis pas sûre ? Parce que, peut-être qu'au moment où l'enfant arrive au monde, le contexte est stable. Mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, en fait. Donc voilà, j'ai l'impression d'imposer quelque chose à un être qui n'a rien demandé, ouais. Et qui n'a pas encore les armes pour se défendre avant d'avoir compris un peu le fonctionnement de la vie.
C'est un truc que je partage aussi.
Après, c'est vrai que dans chaque naissance, à chaque génération, on a imposé un petit peu, tu vois, le monde à l'enfant. Mais c'est vrai que la différence de notre génération par rapport aux générations d'avant, c'est qu'on a un contexte climatique et politique qui n'est plus stable et qui commence vraiment à se détériorer très rapidement. Et du fait qu'on soit même pas capable de prédire dans 5 ans où en sera la situation climatique, je pense que c'est d'autant plus risqué de mettre un enfant au monde. Donc c'est vrai qu'on leur laisse pas une situation pérenne ni sereine dans laquelle évoluer. Donc je rejoins totalement ce que tu dis. Sinon que le fait de mettre un enfant au monde face justement à ce monde-là, c'est peut-être d'autant plus difficile pour les générations qui vont venir que pour celles qui sont passées. Et que cette prise de conscience écologique, justement, je pense qu'elle fait très mal. Elle peut faire très mal quant au désir d'avoir des enfants. Ça rejoint, c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais ça rejoint aussi un peu la volonté du désir maternel ou paternel qui touche surtout les femmes. C'est vrai qu'il y a beau, on dit que surtout les femmes veulent avoir des enfants. Vrai ou faux, ça j'en sais rien, mais il est vrai que pour les femmes qui veulent des enfants, celles qui se posent la question de l'écologie, elles en souffrent. Je trouve, pour avoir eu des témoignages et en avoir discuté avec elles, c'est des gens qui sont des femmes qui vraiment en souffrent et qui ne savent pas comment se positionner par rapport à ça. Et qui sont vraiment dans un entre-deux, parce qu'on ne sait pas déjà dans notre environnement et notre culture vers où elle va. Et par conséquent, elles ne savent pas si on peut mettre au monde... Elles se sentent de moins en moins capables, en fait, d'éduquer et d'élever un enfant en bonne santé dans ce monde-là. Je sais pas, toi, Kaïs, ce que t'en penses.
Moi, j'ai toujours eu... Jusqu'à il y a peut-être un an, deux ans, j'ai toujours eu envie d'avoir un enfant, mais vraiment énormément. Enfin, pas maintenant, mais un jour, plusieurs enfants avec lesquels regarder des films, écouter de la musique, aller en concert, faire de la randonnée et tout. Jusqu'à il y a à peu près un an ou deux ans, mais au départ, le problème, c'était pas tant par rapport au... Le changement, c'était pas tant par rapport au dérèglement climatique ou autre, c'était de façon plus, on va dire, plus terre-à-terre et pragmatique, et sur le fait que un enfant, ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage, et que j'aime beaucoup ma vie et tout ce que je fais, et que j'aimerais bien toujours continuer à les faire avec autant de temps et de passion et d'argent. Et c'est vrai que, bizarrement, le fait de ne pas avoir d'enfant puisse presque se concilier avec un certain engagement écologique a presque, de façon un peu providentielle, réglé cette question, réglé ce questionnement que j'avais. Alors, peut-être que je changerai d'avis un jour, mais c'est vrai que le côté un peu terre-à-terre de l'enfance, ça prend du temps, et l'autre côté, par rapport à l'avenir, de ce que vous avez très bien développé juste avant moi, c'est vrai que maintenant, je ne me vois pas en avoir un. Mais alors, pour aucune bonne raison, et aussi un peu... pour toutes les raisons, je pense, dans l'histoire de l'humanité, qui nous pousse à avoir un enfant, comme ce dont on parlait tout à l'heure, sauvons la planète ou sauvons l'humanité, en fin de compte, c'est toujours un peu pour nous-mêmes, j'ai l'impression. Quoi. Tout à l'heure, je disais, les emmener en randonnée, à la musique et tout, mais en fin de compte, est-ce que c'est pas plus moi que ça ferait plaisir et tout, je sais pas, c'est des questionnements quasi philosophiques et presque un peu pompeux à notre jeune âge ou pas. J'en ai terminé.
Après, il y a aussi une réalité qu'il faut voir, c'est que notre espèce est en surpopulation et on est quand même la seule espèce qui a inventé des moyens de contraception et pourtant qui continue de se surdévelopper. On est quand même la seule espèce qui n'est pas capable de s'autogérer. Donc cette question, en fait, cette question de est-ce que je peux avoir un enfant dans ce futur, dans cet avenir, je pense que c'est un peu notre moyen de régulation, en fait. C'est-à-dire que chaque espèce va s'autoréguler de manière biologique ou peu importe, de manière inconsciente. Mais chez nous, le fait qu'on soit, qu'on puisse avoir accès à ces réflexions-là, notre régulation, la régulation de notre population va se faire surtout par des questionnements, je pense, comme tu dis, philosophiques, voire pompeux, et surtout par la gestion de notre égoïsme aussi.
Moi, pour le coup, à ce niveau-là, je suis plutôt très pessimiste sur cet avenir-là. Je pense qu'on n'arrivera jamais à se réguler, que sauf catastrophe ou épidémie mondiale. Enfin, le problème de surpopulation ne sera jamais réglé autrement que par une... c'est malheureux, mais dans plein de films de science-fiction ou d'action type Mission Impossible, le méchant, en général, c'est sa réponse. Il invente une épidémie ou il invente une guerre nucléaire pour régler ce problème de surpopulation. Alors, bien sûr, pour moi, ça n'a rien d'une solution, mais... Je suis pas scientifique. Je suis extrêmement pessimiste juste sur ces questions-là, sur celui de la surpopulation.
Ah oui, oui, mais moi aussi, hein, d'ailleurs. Enfin, quand on voit les mesures qui ont été prises, notamment par la Chine, par exemple, entre les années 80 et 2005, avec la politique de l'enfant unique, parce que le pays était beaucoup trop... était en surpopulation, bon, ça a mené quand même à une catastrophe démographique, raison pour laquelle ils ont supprimé cette loi. Donc est-ce qu'effectivement on est capable de s'auto-gérer et de passer à du factuel au-delà de cette envie d'enfant, parce qu'au final les parents s'ils font des enfants c'est quand même souvent par envie, est-ce qu'on est capable de gérer cette envie pour arriver à du fait que ben on est trop nombreux, il faut se gérer. Je suis pas sûre que l'espèce humaine soit capable de se gérer à ce point-là, peut-être par un surplus de réflexion. Voilà, je suis pas sûre qu'on arrive à gérer nos émotions et nos envies.
Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Louise, est-ce que tu avais envie de réagir ?
Je pense qu'on ne se gérera pas dans un souci de surpopulation, mais je pense que cette réflexion ou cette prise de conscience sur les années à venir au niveau du climat et de l'écologie peuvent peut-être amener, je ne sais pas, hein, peut-être à limiter la population. Mais je ne pense pas que ce soit dans un souci de est-ce qu'on va être trop sur Terre ou pas. Plutôt, quel monde je veux proposer à mon enfant.
Oui, oui.
Mais après, donc là, on a parlé un peu du côté... un peu pessimiste d'amener un enfant au monde. Je pense que bon, dans l'idée où on a effectivement un enfant, où on apporte un enfant, où on en a déjà dans ce monde, je pense que ça peut apporter une motivation supplémentaire et d'autant plus grande de se battre en tant qu'adulte, en tant que parent, pour changer les choses et donner toutes les clés à nos enfants pour que eux ils soient armés en fait, face aux changements qu'ils vont devoir subir. Et donc je pense que, enfin j'espère que ça peut être une motivation. Moi je vois encore, en regardant les politiques et nos dirigeants, je n'arrive pas à comprendre qu'ils ne fassent rien alors qu'ils ont des enfants. Pour moi c'est un peu, je ne sais pas.
D'ailleurs de plus en plus de dirigeants politiques, même qui avaient à la base aucune sensibilité écologique, notamment à droite, de plus en plus certains commencent à dire que leurs enfants commencent à les influencer. Alors argument de communication je ne sais pas, mais de plus en plus commencent à le dire. Que leurs enfants commencent à les critiquer sur certains gestes de leur quotidien et tout.
Mais je pense que chaque parent devrait aussi se remettre en question. La première chose à faire, je pense que c'est est-ce que j'agis, est-ce que je vais dans la bonne direction pour mon enfant ? Est-ce que les décisions que je prends sont pour son bien ? Et je pense que c'est ça qui devrait nous faire réagir aujourd'hui et qui pourrait être un facteur et un levier d'action pour qu'on avance dans la bonne direction. Donc bon, ce n'est pas le cas actuellement. Mais peut-être que pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir des enfants et qui veulent donner la vie dans ce monde-là, je pense que c'est aussi un moyen de se donner et de se dépasser pour nos actions.
Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions et vos réponses. On se fait malheureusement rattraper un petit peu par le temps. Donc du coup, on va devoir s'arrêter là et clôturer l'émission. Mais merci encore à tous les trois, Élise, Louise et Caïs. C'était un plaisir de vous avoir et d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Et pourquoi pas faire une deuxième édition apérophonique autour de ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très dense et où il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup d'angles à aborder. Donc voilà, merci encore à tous les trois. Très bonne soirée sur Campus Grenoble 90.8 et à très bientôt.
Merci.
Merci
à toi.
Au revoir.